À présent,
Frédéric Worms.
À présent, ce soir autour de la question, la faille américaine et même la faille américaine ébranlera-t-elle le monde ? À présent, la faille américaine, ce n'est pas la faille sismique, par exemple, en dessous de la Californie, c'est la faille politique, autour desquelles se concentrent peut-être toutes les lignes de force qui ébranlent le présent aujourd'hui. Nous en parlons ce soir avec un historien qui n'est pas seulement l'expert de telle ou telle de ces dimensions, dans le travail duquel se retrouvent aussi toutes ces lignes de force et qui peut nous permettre d'explorer cette faille, c'est Pap Ndiaye. Pap Ndiaye, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être venu ce soir. Vous êtes professeur à Sciences Po. Je vous ai présenté d'une manière un peu globale, un peu rapide. Vous avez évidemment travaillé sur beaucoup de sujets, dans beaucoup de directions. Mais d'abord, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que l'élection présidentielle américaine de 2020 est un événement sismique, un événement historique qui va fracturer d'une manière ou d'une autre, enfin, en tout cas, qui révèle les fractures du moment présent? Et en même temps pour dire, comme je le pense pour ma part, mais que toutes ces lignes de force se retrouvent dans votre travail depuis longtemps, votre travail justement sur les États-Unis, sur le racisme, sur la démocratie, sur l'histoire contemporaine. Est-ce que pour vous l'événement est deux fois historique, j'allais dire, en général, et aussi un petit peu pour votre engagement dans le présent justement, Pap Ndiaye?
L'événement est historique au sens où, comme pour toute élection présidentielle, il y a un retentissement mondial et on perçoit bien que cette élection va influer sur nos vies, y compris. Mais cette fois-ci, l'élection a une dimension supplémentaire puisque quelque chose de plus important encore est en jeu qu'une orientation conservatrice ou libérale. Et ce qui est important, ce qui est en jeu, c'est l'existence de la démocratie, puisque celle-ci est très sérieusement attaquée, remise en cause par le président actuel. Et donc là, il y a un enjeu presque tragique qui se dessine dans l'élection du 3 novembre. Et en cela, je n'espérais pas qu'une élection puisse être au carrefour de mes centres d'intérêt.
À ce point-là, au point de les mettre en cause existentiellement, finalement. Vous pensez donc que c'est pas seulement une élection dans une démocratie, c'est une élection qui met en cause l'existence et les principes de la démocratie américaine et peut-être par vague au-delà, Pap Ndiaye.
Voilà, dans un vaste réseau au fond où l'on retrouve des proches de Trump dans des démocraties anciennes ou moins anciennes comme le Brésil ou bien la Grande-Bretagne. Des démocraties ou des pays illibéraux, comme on dit en Europe centrale et en Europe orientale, voire franchement des régimes très autoritaires du côté de la Russie, de la Chine. Et donc il y a quelque chose là qui est tout à fait inquiétant avec un président démagogue au sens plein du terme, non pas qu'il soit idéologiquement structuré, mais qui est prêt à s'éloigner de la démocratie. Et en cela, bien entendu, cette élection a une dimension particulière.
Alors vous insistez vraiment sur la dimension démocratique, ça me frappe beaucoup. Et c'est vrai que peut-être c'est la dimension qui explique toutes les autres. Il y a aussi la dimension, et ça fait revivre aussi sans doute des failles historiques des États-Unis, une guerre civile qu'on croyait peut-être pas terminée, mais en tout cas apaisée. Les questions raciales sur lesquelles on va revenir. Mais vous insistez d'abord sur la démocratie. Comment est-ce que vous la décririez? Quel est le point? Est-ce que c'est la contestation des instances politiques traditionnelles, des contre-pouvoirs? Est-ce que c'est un président qui conteste justement le droit de vote, sur lequel on va parler aussi? Enfin, quel est le point le plus critique pour vous, quand vous parlez de démocratie?
Le point le plus critique me semble être, à l'heure actuelle, la question de l'accès au droit de vote. Et la question de l'acceptation du verdict électoral, puisque Trump a d'ores et déjà indiqué que il n'accepterait pas le verdict si d'aventure celui-ci lui était défavorable. Alors là, on touche vraiment
bien
à quelque chose
à une contestation
de tout à fait
fondamentale.
Bien entendu, puisque la démocratie est supposée régler civilement et pacifiquement les différends qui peuvent exister au sein d'une société, avec au fond un accord minimal entre les différentes parties, c'est celui qui consiste le lendemain du vote à accepter les choses pour éviter la guerre civile, finalement.
Bien sûr, c'est comme si on s'engageait sur un match de foot en disant « de toute façon, je vais gagner, et si l'autre marque des buts, bah, ça comptera pas, il y a l'arbitre, la règle, on n'en tiendra pas compte ».
Voilà, et c'est ce qui s'est passé, ou plutôt en 2000, lorsque l'élection méritait d'être contestée, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, les démocrates ont accepté un verdict pourtant inique et éminemment problématique lorsque la Cour suprême a arrêté les opérations de recomptage plusieurs semaines après le scrutin.
Al Gore avait reconnu.
Al Gore a reconnu sa défaite alors qu'il n'en pensait pas moins, mais il a estimé qu'il y avait un enjeu plus important encore que sa propre existence politique, qui était le maintien de structures démocratiques qui supposaient l'acceptation même du bout des lèvres, au fond, du scrutin. Donc ça me paraît être, à l'heure actuelle, un des enjeux principaux, mais il y a également des choses plus peut-être plus profondes à l'œuvre depuis plus longtemps, relatives à l'affaiblissement du pouvoir législatif, des choses relatives aussi à la dérive du Parti républicain depuis plus de 20 ans, dans des franges extrême-droitières qui tournent franchement le dos à la démocratie. Bref, il y a là un ensemble de problèmes à quoi on pourrait ajouter les questions d'argent aussi, qui sapent en profondeur la démocratie américaine. C'est un ensemble de choses que Trump a exaspéré,
catalysé de façon explosive, comme dans un cocktail explosif. Alors, Pat Pagnac, c'est quand même pas un hasard si vous commencez par le droit de vote. C'est pas une question locale. On voit qu'il y a plein d'autres dimensions. On va revenir aussi sur la question des races et du racisme. Vous êtes en train de terminer un livre qui s'intitulera « Pouvoir voter ». D'ailleurs, très intéressant, la capacité physique de voter, mais aussi le pouvoir du vote. Pouvoir voter. Les Noirs américains et le droit de vote aux États-Unis, 19e, 21e siècle, dans les chapitres que j'ai eu la chance de pouvoir lire. Dans ce livre, on voit bien que le droit de vote aux États-Unis, c'est un droit qui a connu déjà des combats où tout se cristallise, ce qui me confirme dans l'idée que votre travail, au confluent de la France et des États-Unis, du racisme et de la démocratie, se situe bien sur une ligne de fracture essentielle de l'époque. Le droit de vote aux États-Unis, c'est encore plus conflictuel qu'en France, parce que tout s'y recoupe, justement. Et donc là, quand on vient de contester en 2020, on réveille les démons.
Oui, parce que cette histoire est plus chaotique encore qu'en France, avec des enjeux qui ne sont pas simplement celui de l'inclusion des femmes, par exemple, ce que nous avons évidemment bien connu ici.
Bien tard,
plus tard qu'aux États-Unis, en effet, mais aussi des enjeux relatifs à la définition même de la citoyenneté, puisque la notion de citoyenneté n'est pas présente dans la Constitution américaine. Et donc, on parle du peuple, on parle des habitants du territoire américain. Une constitution qui est d'ailleurs très maigre sur beaucoup de sujets. Le mot d'esclave n'est pas non plus écrit. Il n'y a rien sur les procédures électorales. Bref, cela a ouvert la porte à de multiples contestations, à des arrangements locaux infinis selon les États et selon les comtés. Et puis, bien sûr, à cette question pendante et centrale de l'histoire américaine, qui est la question raciale, qui est la question de l'esclavage dans une bonne partie du 19e siècle, et ensuite de l'inclusion de la population noire dans la citoyenneté, complètement dans la citoyenneté américaine.
Oui, la Constitution américaine commence de manière célèbre par « We the people », nous le peuple, mais qui est ce nous, qui est le peuple ? Il y a une sorte d'ensemble indistinct, voilà, mais on ne lui accorde pas immédiatement des droits concrets, et du coup, on peut être américain sans avoir le droit de vote, sans être un citoyen avec ces droits-là qui, en France, sont indissociables du statut politique et civique, quand même, malgré tout.
Voilà, et donc l'idée d'un peuple qui ne soit pas un peuple citoyen, elle est donc définie par la Constitution. Le mot de citoyen n'apparaît que très tard, après la guerre de sécession. Et au fond, toute l'évolution du 19e siècle a consisté à savoir qui on pouvait inclure dans la participation politique, et cela a mis aux prises des hommes politiques américains qui considéraient que le suffrage censitaire, par exemple, ou le suffrage capacitaire était la meilleure manière de limiter les débordements populaires et d'avoir un gouvernement responsable par opposition à ceux, notamment dans les États de l'Ouest, qui essayaient d'attirer les migrants et qui leur offraient donc des conditions d'exercice du droit de vote.
Oui, pas forcément pour des raisons, vous dites dans votre livre, pas forcément pour des raisons de principe, mais pour des raisons contingentes. Alors le suffrage censitaire, c'était une manière de dire, si vous avez assez d'argent, vous avez le droit de voter, parce que l'argent, ça vous offre une autonomie, soi-disant, politique, et donc les pauvres étant dépendants ne sont pas libres, donc il y avait vraiment un sujet sur la liberté, en même temps ça permettait d'exclure beaucoup de gens, et donc de donner des critères de l'autonomie finalement, qui n'étaient pas de droit finalement, attachés à la personne comme telle.
Voilà,
mais là ça va toucher au cœur de ce qui se passe aujourd'hui aussi.
Des critères attachés à ses biens, et l'absence de biens est en effet supposée incliner la personne du côté de la servitude ou de la corruption. Le cas échéant. Et cette question, elle est encore pendante aujourd'hui, celle de l'accès au droit de vote, bien que des lois très importantes les garantissent depuis, en particulier la grande loi de 1965, qui est l'une des plus belles lois jamais écrites, au fond, dans le droit constitutionnel américain et peut-être même au-delà. Eh bien, malgré cela, la question de l'accès au droit de vote n'est pas réglée, alors même que l'on pourrait considérer que c'est une question vieillotte,
réglée
une fois pour toutes depuis au moins un siècle, lorsque les femmes ont accédé.
Oui, on dit suffrage universel. On pense que voilà, ces deux mots vont ensemble de manière absolument évidente, en fait.
Oui.
Mais alors cette histoire, on reviendra sur votre conception de l'histoire, Papendia. J'aimerais beaucoup montrer comment votre travail dans son ensemble fait œuvre et reflète les problèmes principaux du moment, votre conception de l'histoire longue, de l'histoire comparative, de l'histoire événementielle du présent. Mais là déjà, sur ce cas précis, on comprend par exemple, vous venez de l'évoquer, pourquoi c'est délégué aux États, chaque État a ses machines plus ou moins perfectibles, la notion même de suffrage national, on commence à savoir. En France, on a aujourd'hui des cours de droit constitutionnel en accéléré dans le monde entier avec les crises mondiales. Mais donc, pour vous, au fond, les États-Unis sont à la fois un enjeu global qui va retentir partout, mais il faut connaître leur histoire locale précise.
Voilà, avec des variations qui peuvent être évidemment très importantes, en dépit d'un cadre général qui s'est quand même précisé entre la fin du 18e siècle et puis aujourd'hui. Mais les marges de manœuvre sont telles aujourd'hui que les États peuvent contrarier de façon très significative l'accès au droit de vote. Et c'est particulièrement vrai dans le sud des États-Unis.
Quand on dit « ils peuvent le contrarier », ils le peuvent comme dans « pouvoir voter », ils le peuvent techniquement. Mais ils en ont le droit, ils ont le droit de changer les modalités, les uns d'autoriser le vote postal, les autres de ne pas l'autoriser. Enfin, c'est un droit qu'ils ont.
C'est un droit qu'ils ont, puisqu'il n'y a pas de commission électorale nationale aux États-Unis.
Et ça,
donc,
on
se met d'accord simplement sur le jour du vote. Ouais, c'est le premier mardi de novembre.
Puis quand même, on élit le président de tous les Américains. Quand même.
Les Américains ont déjà commencé à voter depuis longtemps par correspondance, ce qui est un enjeu évidemment politique à l'heure actuelle. Mm-hmm. La question du dépouillement des bulletins n'est pas une question réglée. La question aussi donc de l'accès physique, parce que le vote n'est pas qu'un droit, ce sont aussi des dispositions
pratiques
qui l'autorisent. Est-ce que le bureau de vote est à proximité de votre domicile ou pas? Voilà une question tout à fait importante. Quel genre de papier il faut pour avoir accès au droit de vote? Voilà des questions pratiques qui comptent autant que le droit formel de voter et qui, si elles ne sont pas réglées, ou en tout cas si elles ne sont pas construites d'une manière à favoriser la participation électorale, peuvent entraver l'exercice même et même décourager finalement des centaines de milliers d'électeurs, particulièrement les électeurs qui sont dans les situations sociales les plus fragiles.
Alors justement, Papendiaï, on pourrait penser qu'avec ce contexte, cette histoire qui a exclu de façon raciale pendant très longtemps, de façon sociale aussi, de façon, sur des critères de genre, on pourrait penser que ça pourrait inciter ces citoyens, ces populations à se détourner du vote, à prendre d'autres combats, et ils l'ont fait à un moment donné. En même temps, ce que vous montrez dans tous vos livres, d'ailleurs dans vos articles récents aussi sur le vote aux États-Unis, c'est que c'est le vote est quand même un enjeu majeur des luttes démocratiques. Ça reste un objectif. Le vote est quand même fait l'objet d'un respect. On y est attaché.
Au fond, c'est cela. C'est l'idée que, en dépit de la contestation que l'on a pu observer dans le monde entier au XXe siècle sur le vote comme étant finalement quelque chose de très formel, une contestation de gauche.
Oui, l'idée, ça ne change rien.
Ça ne change
élection
rien.
Piège à con.
Voilà, c'était un peu bonnet blanc, etc. Ne participons pas à ces simulacres. En dépit également d'alternatives radicales, les soviets avec l'Union soviétique et la dénonciation de du parlementarisme bourgeois et de ses torts, la question du vote et de l'accès au vote demeure une question centrale auquel, me semble-t-il, les acteurs sociaux en général restent extrêmement attachés. Et du côté du monde noir, on voit bien que
c'est encore très présent.
Encore très présent. Par exemple, du côté des Africains-Américains, on vote peu par correspondance, moins que le reste de la population, 11% la dernière fois contre 25% pour le reste des Américains. Parce que les Noirs américains aiment aller voter de manière cérémonieuse.
C'est un peu un geste ritualisé.
On s'habille bien.
C'est un geste de reconnaissance très fort.
C'est un geste de reconnaissance, comme lorsqu'on va à l'église le dimanche matin. Donc on y va en famille. C'est quelque chose d'important qui vise aussi à montrer que l'exercice de la citoyenneté, c'est un exercice physique, matériel, par contraste avec les parents, les grands-parents, plus sûrement, qui eux-mêmes ne pouvaient pas voter, bien entendu, et qui était maintenu à distance des bureaux de vote. Et donc, il y a quelque chose là qui est touchant aussi dans la cérémonie de l'exercice du vote qui en fait quelque chose de pas banal, finalement.
Alors, peut-être précisément parce que les combats pour y accéder sont encore tout récents, les discriminations, les exclusions, la ségrégation est encore vraiment toute proche générationnellement, existentielle. Encore des traces aussi, est encore présente en acte, même dans certains domaines, même si le vote est autorisé. Donc, paradoxalement, c'est peut-être parce que, finalement, il y a eu des combats politiques récents sur le vote, que le vote est encore un enjeu politique aux États-Unis. En France, on a l'impression que c'est acquis. Est-ce que ça l'est entièrement? Sans doute, on peut l'espérer, mais malgré tout, cette fragilisation par Trump a le bon côté paradoxal de réveiller la fragilité des démocraties, même apparemment les plus établies.
Oui, et de nous départir peut-être de ce qu'on pourrait avoir en France, c'est-à-dire une forme de fatigue démocratique. Pourquoi voter encore des élections, etc. Et on le voit bien d'ailleurs en France, à une participation électorale qui tend à s'effriter d'année en année, y compris pour des élections qui d'habitude sont très...
Un peu moins pour la présidentielle.
Moins
encore,
pour la présidentielle et les élections municipales, mais les élections européennes ont été assez catastrophiques de ce point de vue-là. Et lorsque, donc, aux États-Unis, on s'aperçoit que la question demeure un enjeu très très vif, eh bien, il me semble que cela réveille, au fond, peut sortir d'une forme de torpeur démocratique et rappelle que la question du droit de vote n'est pas une question absolument stabilisée, garantie pour toujours, soit parce que par différents dispositifs pratiques aux États-Unis, on la grignote, soit parce que dans une démocratie comme la France, qui n'a pas tout à fait les problèmes matériels dans la participation électorale, eh bien c'est plutôt cette fatigue et cette lassitude générale par rapport l'exercice d'un droit que l'on considère comme finalement inutile et dont on pourrait aussi bien se passer.
Mais justement, on espère ne jamais voir en France, Papanyaï, on va parler de votre approche du comparatisme franco-américain, on espère ne jamais voir en France un président, c'est quand même pas rien. Anna Arendt parlait du pouvoir des blouses blanches, pouvoir de l'autorité suprême, qui légitime tout, finalement, ce qu'elle dit est légitime automatiquement, un président qui met en cause le vote, un candidat opposé qui appelle à voter, ça dramatise tout à coup l'enjeu du vote. On sait que les nazis avaient été élus démocratiquement, ensuite ils ont régné pendant 12 ans sur un article de l'état d'urgence, de l'état d'exception, ils n'ont plus jamais fait de vote. Le procédé de Trump, celui qui consiste à dire, bon, je me représente, il va quand même pas établir le fascisme, l'état d'exception, mais de contester le vote, c'est nouveau, ça, c'est un travail de sape, d'une faille démocratique absolument nouvelle.
C'est nouveau depuis la fin du du 19e siècle, on pourrait remonter à 1876.
Il y a déjà eu des
Il y a une contestation
Il y a toujours un précédent.
La guerre de sécession, bien entendu, puisque l'élection de Lincoln a précipité la sécession des États du Sud qui n'acceptaient pas l'élection.
Le vote, ça s'est joué sur le vote.
Joué sur le vote. Et donc, il y a quand même une guerre civile qui s'en est ensuivie avec plus de 600 000 morts. Là, on a, en effet, donc pour la première fois depuis cette époque, un président qui conteste sur le fond l'exercice du droit de vote. Et s'il avait à sa disposition, Trump, un article comme l'article 16 de notre Constitution...
Il s'en servirait, l'article sur l'état d'exception.
Tout à fait. C'est-à-dire que Trump se sert au maximum de ce qu'il est possible dans le cadre constitutionnel du pouvoir exécutif, et on le voit avec la nomination in extremis, par exemple, d'une juge à la Cour suprême.
On peut penser qu'en France, malgré tout, les gens diraient dans ce cas-là, mais enfin, vous êtes président depuis 4 ans, si vous ne pouvez même pas organiser des élections fiables, c'est quand même aussi un problème. Il y aurait cette petite ironie, je pense, démocratique. Avant de prolonger sur le contexte général de tout ça, la façon dont votre travail de fond sur les États-Unis, sur la France, sur le racisme permet d'éclairer tout ça, nous allons avoir le premier des deux morceaux de musique que vous nous avez proposé, Papa Ndiaye. Can nobody love you like I'm loving you, baby, 'cause they don't know how to love you like I do. And can nobody love you like I'm loving you, baby, 'cause they don't know how to love you like I do. I'm gonna love you in the morning, love you late at night. Girl, I ain't gonna stop loving you till you tell me everything's all right.
Everything's all right.
Can nobody love you like I'm loving you right now? Don't know how to love you like I do. And can nobody kiss you like I'm kissing you, little girl, 'cause they don't know how to kiss you like I do. And let me tell you, can nobody talk to you like I'm talking to you right now, 'cause they don't know how to talk like I do. Now listen, Sam called you cake and ice cream, and he called you cherry pie. Ray Charles called you his sunshine, but you're the apple of my eye.
France Culture,
à présent,
Frédéric Worms.
À présent, la faille américaine ébranlera-t-elle le monde? Nous en parlons avec Papa Ndiaye, historien des États-Unis, historien du racisme en France et aux États-Unis, qui nous propose, Papa Ndiaye, vous venez de nous proposer la voix de Solomon Burke, et en l'écoutant, vous étiez vraiment pris par elle. Est-ce que pour vous, elle incarne quelque chose? Il y a de l'histoire politique aussi qui passe dans cette voix, dans cette musique, Papa Ndiaye?
Elle incarne une grande tradition africaine-américaine qui est celle héritée du gospel et qui s'est prolongée dans le R&B et la soul music, dont Solomon Burke est l'un des héritiers tardifs. Cette voix qui est évidemment très très prenante, qui chante une chanson d'amour qui pourrait paraître tout à fait anecdotique et légère. Mais derrière cela, il y a évidemment un appel social, un appel aussi à la mobilisation.
L'amour, finalement, c'est aussi un enjeu politique.
C'est un enjeu politique, ça n'est pas simplement qu'une affaire interpersonnelle. Et dans la grande tradition qui est celle, du blues au départ et puis du jazz, il y a bien à chaque fois une interpellation, au fond, sur la manière dont on peut être, c'est la vieille question de Du Bois, posée au début du XXe siècle, comment peut-on être à la fois noir et américain? Comment peut-on être reconnu comme un homme avec ses sentiments, y compris ses sentiments amoureux? et en même temps vu par les autres comme étant inférieur, comme étant indigne
avec
d'accéder
une sorte de barrière
à la politique.
Invisible, comme il disait, ce voile qui sépare à travers la couleur de peau un humain d'un autre. Du Bois, dont le nom est si français, Dubois, mais qu'on prononce à l'américaine évidemment, et qui est un très grand sociologue noir et politiste de la question noire aux États-Unis. Pape Ndiaye, votre travail a en quelque sorte fait des zigzags entre les États-Unis et la France et toutes sortes de dimensions. Je voudrais rappeler quelques étapes pour montrer que, pour vous demander aussi votre approche générale, au fond, et en quoi tout s'y retrouve. Vous avez commencé par une thèse plutôt d'histoire économique aux États-Unis, sur les fabriques des entreprises de tissus et des enjeux déjà de discrimination peut-être dedans, mais peut-être pas au premier plan. Ensuite, je saute beaucoup de choses, pardon, il y a un livre majeur, mais sur la France, la condition noire, et c'est sur une minorité française, et c'est vraiment très assumé, l'idée que c'est pas la même situation en France et aux États-Unis. Vous revoici maintenant, ou au moins dans le débat public, mais sur le droit de vote aux États-Unis, on vient d'en parler, mais sur beaucoup d'autres sujets. On voit en vous écoutant sur la musique que vous êtes aussi très... Vous allez chercher dans tous les domaines de l'histoire. Vous êtes un historien, j'allais dire global, mais aussi des faits les plus précis. On sait que vous travaillez aussi sur les institutions d'enseignement, sur la musique aussi classique, sur l'opéra, sur des enjeux très, très pointus. Quel est votre arrière-plan, au fond? Et comment est-ce que vous décririez votre méthode générale, s'il y en a une, ou bien est-ce qu'elle se construit petit à petit?
Je dirais d'abord une curiosité sans limite pour absolument tout ce qui relève de la vie humaine, au fond, et en particulier pour les arts et les expressions artistiques, que ce soit les arts plastiques ou la musique qui me touche particulièrement. Ça, c'est une inclinaison personnelle.
Et puis, la subjectivité rentre en jeu,
oui,
dans l'histoire,
ça.
Dans
tout
la,
de même
dans le savoir, dans
aimer ce à quoi on s'attelle. Et puis, au fond, ce qui me touche le plus, ce sont les injustices, au fond, et particulièrement, pas seulement, mais particulièrement, les injustices liées à la couleur de peau. Voilà quelque chose qui m'a toujours révolté, au fond. Et si je devais tracer une sorte de fil rouge depuis mes premiers séjours aux États-Unis il y a bientôt 30 ans, eh bien, je dirais ceci, c'est la les phénomènes de domination qui se sont construits historiquement et qui pèsent sur celles et ceux qui n'ont pas la bonne couleur de peau. Et en cela, il y a évidemment une part de subjectivité, parce que je suis un Français, mais je suis aussi un homme noir, et je l'assume et je le revendique, non pas en fermeture, mais en ouverture et en curiosité, mais aussi en solidarité avec celles et ceux qui souffrent beaucoup plus que moi de formes de racisme et de discrimination. C'est Raymond Aron qui disait dans ses mémoires quelque chose qui m'a frappé. Il dit: je suis juif par dignité. Et donc voilà un homme, un jeune enseignant, philosophe de cette tradition israélite, ne se revendiquant pas...
Oui, plutôt venant de l'universalisme français, ou justement dire israélite, c'est plutôt... Voilà essayer de minimiser ou minoriser autrement cet aspect-là de l'identité, oui.
Mais qui choisit de s'en emparer au moment où les persécutions antisémites se développent avec l'arrivée au pouvoir de Hitler au début des années 30. Donc c'est une manière aussi, alors dans un cadre infiniment plus pacifique, bien entendu, je ne parle pas de l'entre-deux-guerres ici, mais c'est aussi une manière d'affirmer une forme de solidarité en disant, en assumant par dignité quelque chose dont on a historiquement voulu faire honte.
Vous dites que c'est pacifique, Pape Ndiaye, mais en fait, ça nous paraît aujourd'hui, parce que la question revient au premier plan, assez simple, de dire qu'on peut organiser tout un travail intellectuel, historique, autour de ce sentiment de révolte que vous avez si bien résumé, si clairement aussi, injustice liée à la couleur de peau. On reviendra d'ailleurs sur la question de la couleur, littéralement la couleur. Mais en même temps, à l'époque où vous avez choisi de centrer votre travail là-dessus, c'était sûrement pas évident, y compris dans l'université. Et puis l'idée que cette question de l'injustice liée à la couleur de peau puisse organiser tout un travail, que ça puisse aller de l'économie, les entreprises, jusqu'à la musique, en passant par évidemment le droit de vote, que ça puisse irriguer aussi des différences entre l'approche, la situation en France, et même dans la France, vous distinguez évidemment les territoires d'outre-mer et puis les États-Unis. C'était pas gagné d'en faire un projet global, au fond. Maintenant, ça, mais je pense que ce qui est fort dans ce geste, c'est de dire c'est ma source subjective, politique, mais en même temps, ça organise tout un parcours.
Sans le définir préalablement, puisque d'accord. Il est aussi presque facile, a posteriori, ouais, de reconstituer enfin, des linéarités, des cohérences ouais. qui apparaissent moins dans le feu de l'action ou dans le feu de la vie. Ou des rencontres.
Mais dès le départ, vous le saviez quand même.
Non, parce non. que étant au fond issu d'un modèle très républicain, j'avais beaucoup de réticence à regarder les questions de race, comme souvent en France d'ailleurs. Une méfiance aussi par rapport à ce que ça pouvait impliquer pour moi. Et donc je pense que je me méfiais de moi-même aussi d'une certaine manière. Et puis, comme d'autres, d'ailleurs, c'est un séjour, la vie aux États-Unis qui crée quelque chose.
Où
cette question devient à la fois importante d'un point de vue intellectuel, mais on sent aussi que sa vie sera déterminée par ça. Mmh. Et donc, la question, c'est de savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on le repousse ou est-ce qu'on l'embrasse d'une certaine façon quels que soient les risques possibles, parce que cette question-là, ou la question d'une carrière universitaire, était quand même relativement secondaire pour moi. Et donc j'ai choisi de me sauver moi-même en assumant cela.
C'est drôle parce que vous avez cité Raymond Aron, Pape Ndiaye, mais là vous êtes très sartrien parce que se sauver, c'est le geste sartrien, c'est impossible le salut, mais le salut est dans la fuite. Hein. Se sauver, c'est aussi s'échapper. Et Sartre disait que la liberté, c'est ce qu'un homme fait de ce que les hommes ont fait de lui. Et ce que vous venez de dire en est très proche. Alors, une question encore un peu de méthodologie malgré tout. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'histoire globale, d'histoire longue. Achille Mbembe situe la question qu'il dit nègre dans une histoire très très vaste. Est-ce que c'est ce cadre-là aussi qui est pour vous le vôtre quand vous revenez des États-Unis avec ce sentiment et que vous l'appliquez finalement à la France, vous dites la France n'est pas indemne, hein, je vais regarder la France aussi. Est-ce que pour vous il faut ouvrir le champ? Est-ce que c'est aussi une question qui, loin d'être locale, nous oblige à regarder large, quoi?
C'est une question, me semble-t-il, qui oblige à une perspective globale, à une perspective qu'on appelle couramment aujourd'hui diasporique, par laquelle on ne méconnaît pas les différences locales et régionales. Mmh. Il serait absurde de prétendre que les situations américaines et françaises sont identiques, mais d'admettre minimalement qu'elles sont comparables parce qu'il y a des grands phénomènes historiques qui sont comparables, qui se sont organisés, par exemple, autour de l'Atlantique, avec la question coloniale, avec la question de l'esclavage, avec des formes de domination qui, sans être identiques, ont néanmoins en partage beaucoup de choses. Et donc, il faut bien regarder tout cela, regarder aussi la situation des peuples afrodescendants. Et qu'est-ce qu'un peuple afrodescendant, finalement, au-delà de l'aspect physique? C'est une relation à l'Afrique. Mais la relation à l'Afrique, ça ne signifie pas qu'on s'y rende ou même que l'on ait un intérêt marqué pour le continent africain. Après tout, on a bien le droit d'être noir et de ne pas s'intéresser à l'Afrique, mais de s'intéresser aux civilisations scandinaves, pour ne prendre que cet exemple.
J'espère bien. Et
espérons-le bien. Néanmoins, il y a quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Mmh. Et ce à quoi on ne peut pas échapper, c'est le destin de l'Afrique. Mmh. Tant que l'Afrique sera à genoux, le destin des peuples noirs sera concerné. Et donc, même si on ne s'intéresse pas à l'Afrique, Nous concerne particulièrement celles et ceux qui sont identifiés comme noirs dans des sociétés qui ne l'ont pas.
Parce que finalement, dans ce processus de domination, Papa Ndiaye, vous montrez bien dans un de vos textes que la couleur de peau a aussi servi à justifier des dominations économiques et politiques. Bien loin d'être d'emblée elle est évidente comme un problème raciste, elle a été construite pour servir des dominations économiques et politiques. Donc il faut traiter la question politiquement. Là aussi, vous me rappelez Sartre, Papa Ndiaye, qui disait que finalement, et aux grandes dames des communautés juives après la guerre, il disait dans Réflexion sur la question juive que les juifs n'ont pas d'histoire parce qu'ils n'ont pas d'État. Et c'est pourquoi il ne s'est jamais opposé le fait qu'ils aient un État pour entrer dans l'histoire, ne serait-ce que pour pouvoir s'y battre finalement. Et vous dites, donc la question est globale parce que précisément, elle concerne l'Afrique. Et la réponse viendra des droits des Africains dans la scène mondiale.
Une partie de la réponse viendra en effet du sort de l'Afrique. Autrement dit, il est à la fois important de penser les situations nationales. La question de la lutte contre les différentes formes de racisme et de discrimination, c'est une question qui nous occupe, nous, en France, comme elle occupe les Américains.
Oui, on ne va pas se défausser sur non plus l'histoire de l'Afrique au 22e siècle, au 23e-4e siècle.
Et en même temps,
je veux dire maintenant ici.
Exactement. Et en même temps, je pense qu'il est aussi important de garder à l'esprit que la situation contemporaine des Africains, de ce continent qui se débat dans des difficultés et en même temps qui avance de multiples manières, que cela a une importance décisive pour les afro-descendants, que l'image de l'Afrique, qui est souvent très dégradée, en particulier dans les médias, elle retentit sur qui on est ici, que la relation imaginaire que l'on peut avoir à l'égard de l'Afrique est aussi quelque chose de tout à fait essentiel. Et donc, en effet, je pense de plus en plus que la question de l'Afrique est une question qui reste, dont on ne peut se débarrasser d'une certaine façon, qui est absolument essentielle, quelle que soit la relation que l'on peut avoir avec le continent en question.
On sent que c'est votre prochain continent d'exploration, Papa Ndiaye, en vous écoutant. C'est très frappant, très impressionnant la façon dont, dans Afro-descendants, vous êtes historien, on pourrait penser que vous allez surtout remonter cette descendance vers l'origine atlantique, les traites et autres. Mais en même temps, c'est aussi vers le présent que vous allez, justement. Cette émission s'appelle À présent, il y a des problèmes globaux. Et on a l'impression que, finalement, l'existence individuelle de chacun, de chaque personne dont la peau est de couleur noire, dépend du sort politique de l'Afrique au niveau mondial.
Voilà, du sort politique de l'Afrique, de la manière dont l'Afrique sortira des crises économiques, politiques et sanitaires qui l'affectent, avec évidemment des choses qui avancent. L'Afrique n'est pas du tout immobile, surtout pas maintenant. Mais c'est en partie sur ce continent que le sort de celles et ceux qui sont identifiés comme noirs se jouera.
Tant qu'on se représentera une domination internationale, un monde divisé en dominants et en dominés, ça se réfractera jusque dans nos rues, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos usines, Papa Ndiaye.
Et donc on ne s'en sortira pas sans regarder là. Et à cet égard, il est donc tout à fait essentiel de penser cette relation à l'Afrique qui peut être une relation imaginaire, une relation poétique, littéraire, une relation qui se fait aujourd'hui par les explorations génétiques. Il y a une passion chez les Africains-Américains pour les tests génétiques, pour essayer de manière...
Oui, on exhume même des cadavres d'anciens esclaves pour voir de quel pays africain ils venaient.
Exactement.
J'ai vu ça quelque part.
On fait des tests génétiques aussi pour savoir de quelle région d'Afrique l'on vient. Il y a une sorte de curiosité, bien sûr, pour savoir, pour franchir cette barrière historique qui paraît infranchissable, qui est celle de la traite, la barrière transatlantique, mais derrière cela, il n'y a pas qu'un voyage d'agrément à la recherche de ses ancêtres. Il y a le sentiment confus que c'est bien là que se jouera le destin de ses enfants, de ses petits-enfants, dans les années à venir.
Et ça, c'est votre travail d'historien, Papa Ndiaye, qui vous le confirme. Ça vous permet aussi de dire ce rapport à l'Afrique. Il prend différentes formes, évidemment, comme vous venez de dire, poétique, lyrique, génétique. Mais derrière, c'est quand même le politique, au fond. C'est-à-dire que si on essentialise, là aussi, biologiquement ou même littérairement, et c'est une, aussi une force politique, de, comme chez Senghor et Césaire, à un moment donné, on risque de masquer. Et là, l'historien, on a besoin de l'historien pour comprendre qu'au fond, c'est quand même un enjeu politique avant d'être autre chose, un enjeu des humains entre eux, des rapports de pouvoir.
C'est un enjeu politique, des relations entre le continent africain et le reste du monde, relations sur lesquelles... Évidemment, on a beaucoup réfléchi, au moins depuis les indépendances. Et puis, c'est un enjeu aussi pour les Africains eux-mêmes. Mmh, c'est-à-dire, que fait-on des frontières coloniales, hein? C'est toute la question panafricaine qui revient d'ailleurs.
La question africaine est politique de part en part.
Et qui est profondément une question politique. Que fait-on des frontières héritées de la décolonisation? Comment penser l'Afrique avant la colonisation dans ces grandes formes politiques qui sont parfois d'ailleurs rêvées et dans une perspective très romantique, hein, d'une Afrique idéale avant l'arrivée des Européens, bien entendu, comme si on avait besoin de ça aussi, comme les Européens à la Renaissance avaient besoin de penser une Europe mythique de l'Antiquité. Donc il y a aussi, il y a toutes ces questions-là qui sont les questions, au fond, de la relation qu'ont les Africains à la politique d'aujourd'hui, mais aussi la relation à l'histoire. À quelle histoire ont-ils ? D'où l'importance, par exemple, de la restitution des objets d'art, qui est un des enjeux actuels dont le président de la République s'est saisi.
On va revenir sur des enjeux très précis, Pape Ndiaye, qui montre aussi que l'émancipation des uns est la condition de l'émancipation des autres, non seulement entre les Africains et les Afro-descendants, mais aussi évidemment tous les autres qui sont prisonniers d'une même structure historique. Vous nous avez proposé une autre voie, féminine cette fois, très marquée aussi par les mêmes questions de part en part.
Once upon this planet Earth lived a man of humble birth, preaching love and freedom for his fellow man. He was dreaming of the day peace would come to earth to stay, and he spread this message all across the land. Turn the other cheek, he'd plead. Love thy neighbor was his creed. Pain, humiliation, death, he did not dread. With his Bible at his side, from his foes he did not hide. It's hard to think this great man is dead.
À présent, la faille américaine. Et cette faille américaine ébranlera-t-elle le monde? On va y revenir dans un instant avec Pape Ndiaye, avec qui nous parlions déjà de cette question, avant d'entendre la voix de Nina Simone, que vous avez peut-être reconnue. Cette voix qui circule beaucoup aujourd'hui, Pape Ndiaye, sur les scènes mondiales, qui revient dans des films, dans des livres, dans des scènes de théâtre. C'est une voix très marquée, qui a été une des plus belles voix de son temps, mais exclue des plus grandes carrières, qui malgré tout, justement, dans sa faille, justement, au bon sens du terme, plutôt une faille imposée par les autres, mais une fêlure qu'elle a aussi su transfigurer, exprime toute la faille américaine, toute la faille qui aujourd'hui risque d'ébranler le monde, Pape Ndiaye.
Une carrière classique au départ, qui lui a été refusée parce qu'elle était noire. Elle n'a pas pu accéder aux écoles de musique prestigieuses. Et puis Nina Simone devient cette immense chanteuse. On l'entend il y a un instant parler de King, quelques semaines après son assassinat en avril 1968.
Martin Luther King.
Martin Luther King. Elle parle de cet homme-là qu'elle a connu, bien entendu. Mais si Nina Simone est aujourd'hui si écouté, si on s'y intéresse tant. Il y a biopic, il y a des livres qui paraissent sur elle. C'est parce que, bien sûr, elle est au croisement à la fois du mouvement MeToo. Au fond, c'est une féministe.
C'est ça.
C'est une intersection, une féministe noire. C'est la relation avec l'Afrique, où elle a vécu pendant plusieurs années. Elle a vécu en France aussi, évidemment. C'est donc une perspective large, une perspective globale, une figure globale qui, tout en étant profondément américaine dans son art, s'inspire de ce qui se fait ailleurs, prête attention aux situations des peuples colonisés ou des peuples décolonisés dans les années 60 et 70, avec une sorte d'opiniâtreté qui frappe dans la manière dont elle chante, dans la manière dont elle revendique. C'est une chanteuse qui ne bouge pas d'un pouce sur ce qu'elle croit être juste, et cela se fait au prix d'une carrière qui a été évidemment très très embarrassée, très en zigzag. C'est une femme admirable, bien sûr.
Vous en parlez admirablement aussi, Pape Ndiaye. Je voudrais revenir sur quelques enjeux très contemporains autour du racisme. On l'a abordé évidemment déjà dans votre, c'est le cœur, au fond, c'est ce qui anime votre projet historique global, la singularité de votre œuvre. Vous avez parlé aussi du lien de la démocratie. Je voudrais partir de deux événements, un aux États-Unis, un en France, pour y aborder. D'abord, aux États-Unis, est-ce que vous avez été surpris, vous, Pape Ndiaye, avec justement votre arrière-plan si précis? Voilà, il y a la pandémie, il y a le confinement. En France, on se déconfine, on va sur les plages, un peu quand même. Aux États-Unis, le déconfinement, c'était Black Lives Matter, une révolte profonde liée à cet assassinat, cette mort par une violence policière de George Floyd. Est-ce que vous avez été surpris que la première chose qui sorte de la marmite du confinement américain, de cette faille-là dont on parlait, ce soit cette question raciale? Est-ce que ça vous a surpris, Pape Ndiaye?
Oui. Parce que la mort atroce de George Floyd, son meurtre pendant 8 minutes filmé, au fond, s'inscrit dans une longue séquence de meurtres d'hommes noirs par des policiers, bien sûr. Le mouvement Black Lives Matter a été fondé en 2013 ou 2014. Et puis avant, dans les années 60, les mobilisations contre les violences policières étaient tout à fait centrales dans les grandes révoltes de 67 et 68 en particulier. Donc il y a une longue histoire, mais comment savoir lorsqu'il
va prendre comme ça?
Voilà, ce qu'il va prendre. Michael Moore, par exemple, en 2014, et tant d'autres sont morts de façon atroce. Et puis, il se passe quelque chose à un moment donné, pour des raisons qui ne sont pas entièrement explicables, me semble-t-il. On peut invoquer la crise sanitaire, bien entendu. On peut invoquer la crise économique.
On peut invoquer Trump.
Et Trump, bien entendu.
Après Obama, quand même, ce balancier si violent.
Mais il se passe quelque chose à un moment donné, un peu comme Emmett Till, ce jeune adolescent lynché dans le Mississippi en 1955. Il y en a eu tant d'autres avant lui, mais c'est la mort d'Emmett Till qui a changé les choses en 1955. Il y a une génération de militants qui se lèvent à ce moment-là, et cette mort de George Floyd me fait penser à l'événement de 1955. Il se passe quelque chose à un moment donné, et ce quelque chose, au fond, ce sont des manifestations qui sont les plus grandes de l'histoire des États-Unis. C'est le plus important mouvement social de l'histoire de ce pays, tout de même.
Tout mouvement social confondu.
Tout mouvement social confondu depuis 1787. Et ce qui est évidemment frappant, c'est que des segments très importants de la population blanche se sont adjoints. Ce ne sont pas simplement les Noirs qui manifestent, comme on l'a vu en 2014 et 2015, mais des parts entières de la jeunesse américaine, dans des villes où il n'y a pas un seul Noir américain, ou très peu, comme Seattle ou Portland même.
Là, ils sont sortis. Ils
sont sortis avec une forme de prise de conscience et de solidarité par rapport à la situation vécue par leurs compatriotes noirs, tout à fait extraordinaire, et que moi, je n'ai pas connu personnellement.
Alors justement, Papanièche, on peut se dire c'est un moment décisif. Vous en aviez parlé dans ces termes dans une tribune dans Le Monde à peu près sur le moment. On peut se dire en effet qu'en France, quand il y a un crime raciste, mais ça dépend un peu des crimes racistes, j'allais dire. Il y a des manifestations communes. Il y a eu la manifestation du 11 janvier après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Et où là, on a l'impression qu'il y a tous les Français dans la rue. C'est parfois plus restreint, malheureusement. Donc là, le geste où il y a une sorte de 11 janvier, justement, une sorte de déferlante un petit peu vraiment nationale, civique, ça vous paraît très très important là aux États-Unis? Ça peut ouvrir des voies nouvelles?
Et cela s'est fait sans l'approbation des autorités nationales, contrairement au 11 janvier,
oui,
qui
évidemment.
A une dimension
où là,
magnifique.
Le président Hollande, toute l'Europe qui ouvrait voilà. Un cortège en disant « je suis Charlie, je suis juif, je suis noir, je suis arabe ».
Et ça, c'était magnifique et émouvant. Parce que oui. Tandis que les manifestations de juin et juillet, ces grandes manifestations se faisaient sous les quolibets, le mépris, les insultes du président des États-Unis, qui considérait les manifestants comme des voyous ou bien des marionnettes manipulées par je ne sais quel gauchiste. Et donc là, il y avait bien aussi une dimension qui était une dimension de revendication. Il ne s'agissait pas simplement d'être en deuil. Il s'agissait aussi de réclamer quelque chose à un gouvernement qui faisait la sourde oreille.
Qui fait la sourde oreille. Mais justement, Papendia, vous êtes professeur aussi d'études américaines à Sciences Po, et on va revenir sur la France ensuite, mais est-ce qu'on est à la veille d'une alternative majeure entre justement une forme de progrès, de réconciliation, ou bien un réveil d'une guerre civile, à proprement parler, de la guerre civile américaine? Est-ce que pour vous, on a parlé au début de cette alternative majeure, c'est ça qui se joue aujourd'hui, on peut le dire?
C'est un des enjeux de l'élection, en effet, la possibilité, si Biden est élu, d'une forme par la politique par laquelle des revendications essentielles des Noirs américains se trouveront prises en compte centralement dans le programme d'un candidat au lieu d'être en marge.
Oui, d'être le supplément
tout à fait.
Facultatif finalement,
voilà, ce qui n'arrive,
politique de justice.
Voilà, c'est ce qui arrive généralement puisque les Noirs américains sont un des piliers du Parti démocrate et ce sera le cas cette fois-ci comme dans le passé, mais leurs demandes spécifiques ne sont jamais considérées. Voilà maintenant qu'elles ont une place avec d'autres choses.
Elles sont au cœur du sujet.
Et voilà. Et donc ça, c'est quand même tout à fait important, avec au fond une revendication qui peut apparaître simpliste lorsque je la formule ainsi, mais au fond, c'est cela, c'est le droit à la vie.
Alors justement, on n'a pas beaucoup le temps, mais dans Black Lives Matter, il y a cette question de la vie, il y a cette question de la reconnaissance du droit, il y a à la fois l'idée du droit, mais pas seulement formel, du droit vraiment concret, de vivre, de la qualité de vie. Est-ce qu'en France, vous avez écrit donc La Condition Noire il y a quelques années, Papendiaï, est-ce que vous êtes surpris là aussi par le retour de cette question en France? Elle revient, et c'est pas seulement un contre-coup, on dit parfois, bon, les Américains ont MeToo, Black Lives Matter, puis en France, ça arrive plus tard comme tout le reste. C'est pas seulement ça, c'est pas seulement un contre-coup. Il y a aussi cette question revient en France. Qu'est-ce que vous diriez de la France aujourd'hui, Papendiaï?
Cette question n'a pas disparu. Elle est présente dans l'espace public français depuis la fin des années 1990, le début des années 2000, depuis une vingtaine d'années, finalement, ce qui correspond d'ailleurs à des évolutions sociologiques d'une partie de la jeunesse noire qui accède aux études et à l'âge adulte, compte tenu des phénomènes migratoires plus tardifs que du côté, par exemple, des Nord-Africains qui se sont mobilisés, on se souvient de la marche des beurs au début des années 80, il y avait très peu de Noirs à ce moment-là, hein. Les Noirs sont apparus à partir des années 2000. Donc, pour des raisons liées à l'histoire migratoire, celle aussi des Antillais. Et puis, bien sûr, avec aussi un regard aigu porté sur d'autres situations nationales. Ce qui se passe aux États-Unis a de l'influence. Ce qui se passe aussi en Grande-Bretagne a eu de l'influence au début des années 2000. Et avec des sinusoïdales depuis 2000, la question n'a pas quitté, je pense, la scène publique. Elle apparaît avec plus de force aujourd'hui, mais elle était très présente il y a une quinzaine d'années, par exemple.
Et vous êtes aussi mobilisé, vous êtes aussi actif, non seulement en tant qu'historien, historien, intellectuel, et avec cette vision d'ensemble, mais aussi sur des sujets très concrets, dans les institutions d'enseignement supérieur, dans les institutions françaises. Vous pensez que le cadre démocratique français peut maintenant, est mûr, pour aussi assumer cette question sans se trahir, sans perdre, loin de là, les exigences républicaines?
Non seulement il est mûr, mais il se sauvera en faisant cela. C'est-à-dire que si l'on veut considérer que les exigences républicaines et universalistes ont quelque solidité, ont quelque véracité, eh bien, il faut justement accéder à ces demandes, c'est-à-dire celle d'une lutte beaucoup plus déterminée contre les formes de racisme, les formes de discrimination, y compris dans l'enseignement supérieur. Il y a des progrès notables qui sont faits. On n'est pas dans une situation
immobile. Il y a encore du
immobile.
Déni.
On est encore dans des situations de déni. Il faut écouter la parole de nos concitoyens noirs lorsqu'ils parlent des difficultés pour accéder au travail, pour accéder à un logement, des difficultés dans les interactions avec la police, des mille et une petites avanies du quotidien.
Chaque avanie étant une blessure intime.
Chaque avanie étant une petite blessure.
Un traumatisme.
Voilà, et lorsqu'elles s'ajoutent les unes aux autres, ça devient très difficile. Et donc, loin de miner les institutions républicaines, au contraire, il me semble qu'on les prend au sérieux, d'une certaine façon, en exigeant, au fond, un universalisme qui ne soit pas simplement réservé, un universalisme chauvin, comme disait Sayad, mais un universalisme qui soit ouvert à toute la population dans ses multiples composantes et qui, dans le même mouvement aussi, reconnaisse la possibilité de singularité culturelle sans les considérer comme affaiblissant le
corps
national.
Comme séparant, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Il n'y a pas forcément de séparation dans la reconnaissance des différences. On sent que c'est un engagement intellectuel global, c'est un projet historique, historien, c'est aussi une subjectivité qui s'engage dans toutes ses activités, je dirais, qui ne sépare pas justement son rôle de professeur, son corps, son rapport interactif aux autres. Voilà, on n'a plus le temps, mais cette unité subjective de tout votre travail, vous diriez qu'elle est vraiment sollicitée par le moment présent, en un mot, que ce moment est vraiment déterminant?
Oui, pour peu qu'on n'y soit pas entièrement absorbé.
D'accord.
C'est aussi le plaisir de l'historien, presque le devoir.
Pas non plus se laisser piéger par le présent.
De ne pas se laisser piéger par le présent et donc d'être à la fois dedans, attentif, passionné, le cas échéant, mais de faire ce pas de côté qui demeure nécessaire si l'on veut rester lucide, à la fois engagé, mais avec la petite distance qui quand même permet de réfléchir.
Merci infiniment pour tout cela, Papa Ndiaye. À présent, ce soir, c'était pour se demander si la faille américaine allait ébranler le monde. C'était avec Papa Ndiaye, c'était avec et grâce aussi à Bernard Laniel, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms. À la semaine prochaine, vendredi, même heure, même antenne.